すでに。Alors, bonjour à tous et encore une fois, quel privilège de pouvoir être ici avec vous et prendre un temps pour ouvrir la parole de Dieu et considérer ce que Dieu a à nous dire ce matin en 2017, 2018. Vous avez vu où j'ai pas encore switché. Et comme notre frère Benoît l'a mentionné, on est dans notre série de hashtag je suis. Et ce matin, voyons comment nous pourrions, d'une certaine façon, individuellement ou peut-être en assemblée, s'identifier à une partie du vécu d'un personnage biblique assez beaucoup connu, celui de Moïse. Moïse, fils de Lévi, de la maison de Lévi. Personnage connu de tous, même des non-croyants dans une bonne mesure. Et à l'école du dimanche, il fait certainement partie là, du top 10, même du top 5, hein, auprès de Adam, Noé, Jonas, Daniel et David. Et de simplement faire un bon survol du personnage prendrait quelques heures minimum. Et en me préparant pour ce message, j'ai comme vite réalisé que j'avais pogné le jackpot avec Moïse. Il y en a juste trop. Et je me disais la semaine dernière, comme il a été mentionné, hein, que le but premier, c'est pas que nous connaissions la vie de ces personnages en profondeur, mais qu'on peut, dans une certaine mesure, à moins avoir une chose avec laquelle je peux m'identifier, que je peux me rattacher et pouvoir dire par la suite, je suis Moïse. Alors, Moïse en un paragraphe. Alors là, paniquez pas, et j'ai tellement pitié pour Marielle qui va faire le langage des signes, mais je fais un rapide survol. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui est né dans une famille d'esclaves, sauvé d'une noyade et élevé par une famille adoptive qui torture sa vraie famille et finit par se cacher dans le désert à élever des moutons pendant 40 ans pour échapper à sa famille adoptive qui veut le faire mourir. Le gars est rappelé à Dieu à laisser ses moutons et à retourner auprès de sa famille adoptive pour leur ordonner de libérer sa vraie famille, toujours esclave, pour les ramener en terre promise. Après que Dieu ait anéanti sa famille adoptive, il ramène avec lui sa vraie famille dans le désert pour errer pendant 40 ans. Pendant ces années dans le désert, il endure les complaintes et les lamentations de sa vraie famille, qui sont pas moins d'un million de personnes. Il fait la guerre, mate des rébellions, transcrit tout ce que Dieu lui demande, et puis il meurt dans le désert juste avant que sa famille entre en terre promise. Fin de l'histoire. Est-ce qu'il y en a ici qui s'identifient à ce gars-là? Vous pouvez lever la main? J'avais hâte de voir qui allait lever la main. OK, c'était un bref résumé à vue d'aigle, à vue de satellite. Et peut-être que mon extraordinaire résumé vous laisse un peu indifférent. Alors, on va regarder de plus près certains faits saillants qui se démarquent dans la vie de Moïse. Et on veut faire ça dans le style, tu sais, vous savez, un curriculum vitae, CV. Ou peut-être même lorsqu'on dit, écoute, faut nommer quelqu'un au temple de la renommée, et puis quels sont les faits d'armes de cette personne-là qui mériterait qu'elle soit intronisée. Alors, regardons pour Moïse voir qu'est-ce qu'il y aurait qui pourrait l'introniser au temple de la renommée de la ligne nationale biblique. Alors, rapidement. Alors, c'est écrit petit, mais je vais les mentionner. Il a été sauvé d'un génocide et d'une noyade lorsqu'il était bébé, quand même. Il est le petit-fils adoptif d'un pharaon pendant 40 ans. Il est berger pendant 40 ans. Il est marié, père de deux enfants. Pas rien. Il y a de multiples rencontres et de discussions face à face avec l'Éternel.
Oh.
Il est le représentant de Dieu pour son peuple devant Pharaon. Il institue la célébration de la toute première Pâque. Il sépare la mer Rouge en deux. Il a engagé une guerre contre l'armée d'Amalek. Il est conducteur et juge d'Israël pendant 40 ans. Et il fait sortir de l'eau d'un rocher pour une centaine de milliers de personnes. Et là, ce n'était pas juste un petit filet d'eau qui sortait d'une roche. Là. C'était un torrent. Hein? On en prend de l'eau pour faire boire tout ce monde-là. Et il est écrivain. Et il sera le messager de la loi à son peuple et indirectement à toute l'humanité. L'auteur de la Torah, de la loi, des cinq premiers livres de la Bible et sous la direction de Dieu lui-même. On lui attribue aussi la paternité du plus ancien psaume. Hein? On l'a chanté tantôt, psaume 90. Il est médiateur entre Dieu et son peuple. Il intercède pour son peuple à multiples reprises, incluant pas moins de trois périodes de 40 jours de jeûne et prière. Trois périodes successives de 40 jours de jeûne et prière. Ça, c'est si vous demandez dans Deutéronome 9, vous pouvez trouver ça. A escaladé le mont Sinaï près de 8 fois. Les experts ne s'entendent pas si c'est 5 ou 6 ou 7 ou 8. Je suis allé avec le top. 8. Et est mort à l'âge maximal de l'être humain établi par Dieu suite au déluge. 120. Le gars, c'est une machine. Une machine. Et j'allais avec un petit peu plus loin, à titre posthume. Donc, après sa mort même, on peut dire des choses. Dieu a fait cacher son corps dans un lieu secret par l'archange Michel. Spécial. Son nom apparaît plus de 80 fois, seulement que dans le Nouveau Testament. Et il est cité et mentionné par le Seigneur Jésus lui-même. Il est présent à la transfiguration de Christ. Et moi, j'en ajouterai un autre. C'est personnel et vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais je crois qu'il sera un des deux témoins en Israël pour amener le reste d'Israël à la repentance dans la tribulation. Mais, comme je vous dis, je vous le partage, c'est personnel. Alors, est-ce qu'il y en a, encore une fois, qui se reconnaissent dans ça? C'est encore difficile, hein? C'est pour ça que je me disais dans ma préparation, je n'ai pas choisi le bon personnage. Mais, vous allez voir, il y a de l'espoir. On va... Et voilà, hein? On va examiner les moins bonnes choses. On peut peut-être trouver quelque chose. Premier point. Ben là, c'est extrême, là. Hein? Je le sais, c'est extrême. A commis un homicide. Un délit de fuite, en plus. C'est grave, mais quand même, hein? Puis ça a été la cause de son exil dans le désert pendant 40 ans. Récalcitrant en tenant un discours argumentatif avec l'Éternel. OK? Dans son ministère, a souffert de multiples épisodes de découragement, d'épuisement professionnel et de dépression. Et après de nombreuses années dans le ministère, il a été privé de Dieu. Il a été privé par Dieu de voir le résultat final de sa mission. Bien là, je me dis, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ça? Moi, je pense qu'on pourrait presque tous lever la main. Presque tous. Et c'est drôle, hein? On s'identifie à un personnage dans les points négatifs. Je vais tenter de vous surprendre ce matin en regardant un texte sur la vie de Moïse, mais pas dans l'Ancien Testament. On va regarder ensemble une portion du discours d'Étienne, premier martyr de l'Église, qui s'adresse au Sanhédrin quelques instants avant d'être mis à mort. Alors, je vais inviter mon fidèle serviteur, Jacob, fils de Dani, à t'approcher. Alors, fais tourner avec moi dans Livre des Actes, chapitre 7, et on va lire des versets 17 à 36. Et en passant, s'il y en a qui sont nouveaux ici aujourd'hui, pour la première fois. Vous êtes nouveau. On dit qu'on rouvre la parole de Dieu et puis vous n'avez pas de copie en main. Est-ce qu'il y en a ici? Gênez-vous pas, levez la main. Levez la main parce qu'on vous remettrait. On vous remettrait une copie. Une copie du Nouveau Testament, je crois. On va vous remettre du pain. Le pain de vie. Est-ce qu'il y en a? Tout le monde a une copie? Hey, c'est merveilleux, ça. Gloire à Dieu. Alors, Jacob, t'es prêt? Aimes-tu mieux t'asseoir à la batterie? Tu pourrais être plus confortable? Bon, ben c'est bien. Regarde, prends celui-là.
Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraitant nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il fut et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? » À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme de buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, il se fit entendre, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblait, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge? » C'est lui que Dieu envoyait comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui est apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant les prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans.
Béni soit sa parole. Merci, Jacob. Lorsque j'écoute des reportages à la télé ou à la radio sur la vie de grandes personnalités qui ont marqué notre société, j'ai parfois entendu de ces personnes qui témoignent qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient accomplir quelque chose de grand après ce qu'on croit être ou ce qu'on considère notre période de vie utile. Mais c'est pas la norme. C'est pas la norme et c'est comme ça. C'est comme ça dans notre culture occidentale surtout, que passer 55, 60, et règle générale, tu te sens passer, tu te sens glisser là, vers le stade du has-been. Hein? T'as été. Hein? T'as eu ton opportunité de gloire, de briller, de faire quelque chose digne de mention. C'est comme tu quittes là, la phase là, utile à la société. Et on se retrouve lentement, mais sûrement, senti tabletté avec la gang qui se berce, qui vont prendre des marches ou qui se retrouvent à prendre un café au McDo en attendant de se retrouver à l'horizontale permanent. Pas nécessairement mort, mais peut-être couché dans un lit à attendre. Non, mais il n'y a rien de mal en soi d'aller prendre un café au McDo, là. Hein? Il y a des choses à faire, là. N'est-ce pas, Michel? Par contre, j'ai rencontré des retraités, des bénévoles aussi, au sein d'organismes communautaires qui me disaient qu'ils avaient un sentiment d'accomplissement encore plus profond que qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie professionnelle, dans leur carrière, à raison de 35 heures, 40 heures, 50 heures semaine pendant 40 ans. C'est après même que ça a été plus intense, à raison de 10 heures par semaine, que toute leur carrière professionnelle. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et le récit de Moïse nous démontre d'une certaine façon que c'est pas fini tant que la fin n'est pas arrivée. Je pense qu'il est un encouragement. Il est un encouragement pour ceux qui se questionnent dans leur utilité même au niveau familial, tant communautaire, même que dans la vie d'Église. Ou même un encouragement pour ceux qui ont des enfants qui ne suivent pas Dieu. Moïse nous montre qu'il faut vivre par la foi et non par les attentes et par des prévisions. Car Dieu tient ses promesses et il est un Dieu des deuxièmes chances. Est-ce que ce matin, vous soupirez pour une délivrance de ces attentes, de ces prévisions qui font juste peut-être nuire à une vie paisible dans la foi? La vie de Moïse nous présente un principe qui est assez universel et qui est le suivant. Et malheureusement, je n'ai pas pu retrouver la personne qui en est l'auteur, mais ça ne vient pas de moi, effectivement, que les grands hommes ou les femmes, les grandes femmes, sont généralement préparées par de grands accomplissements à travers de douloureuses afflictions. L'épreuve. Et ça, on en parle souvent. Donc, dans les premiers 40 ans, Moïse était un quelqu'un. Là, ça va rappeler des souvenirs à ceux qui sont moins jeunes. Hein, j'ai été choisir des images que j'ai souvent vues dans mon enfance. C'est un grand classique, hein? Les 10 commandements. Moïse était un quelqu'un. Quelqu'un, ça, c'est une expression québécoise qui veut dire quelqu'un d'important. Quelqu'un. Un notable. Mais pas un notable dans le sens que mon père le comprenait, là. Un notable, lui, c'était quelqu'un qui faisait la job de notaire puis de comptable en même temps. Lui, pour lui, c'était le notable. C'était le gars important dans le village. Mais le verset 22 de notre passage dit, « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. » Moïse a grandi comme un Égyptien, pas n'importe où, même dans les palais royaux. Hein. Il a grandi comme un Égyptien. Il mangeait comme un Égyptien. Il pensait comme un Égyptien. Il parlait Égyptien. Il marchait comme un Égyptien. C'est de même, là. On ne sait pas. Et fort probablement, a pratiqué l'idolâtrie comme un Égyptien. Et dans cette situation, on peut facilement devenir comme celui qui veut et qui peut changer le monde. À l'âge de 20 ans même, hein, si t'es un petit Québécois, là, soyons honnêtes, là, même à l'âge de 20 ans, on sent un peu comme ça, non? On imagine hein, que même là, c'était le prince de la nation la plus puissante du monde. Imaginez qu'est-ce qui peut nous passer à l'esprit concernant le désir de changer ce qui est autour de nous. Si ce n'est pas de changer le monde, peut-être qu'on veut la médaille d'or, pas moins. C'est triste, hein? J'ai déjà entendu un athlète dire dans une entrevue hein, qu'on ne gagne pas la médaille d'argent. On a perdu l'or. Hein? On veut le top. On veut le sommet. Notre cœur désire la reconnaissance, les accolades, l'appréciation. C'est agréable d'être important, mais c'est plus important d'être agréable. On veut être quelqu'un. Et puis, lorsqu'on a la conviction qu'on est un quelqu'un, bien, on est en position et en capacité de le faire. On fonce. Go! Sauvons les baleines. Mais avant que Moïse soit quelqu'un, notre passage de ce matin dit que le gouvernement égyptien dans lequel Moïse se préparait à arriver, le gouvernement égyptien ne se souvenait même plus de Joseph. Wow! Un gouvernement qui a oublié les grandes leçons du passé. Voyez-vous à quel point la Bible est toujours d'actualité. Béni soit sa parole. Et l'Égypte avait oublié tout le bien et la bénédiction que Joseph, fils de Jacob, fut pour le pays. Et voici Moïse qui arrive dans une période qui n'était vraiment pas en sa faveur, même si ses parents le trouvaient beau. Nous dit Exode chapitre 2, verset 2. Ses parents le trouvaient beau. Ben oui, écoute, tous nos bébés sont beaux. Moi, je suis convaincu que les deux plus beaux bébés, ici, c'était Amélie et Étienne. Il y a juste eu deux plus beaux bébés qu'eux autres, moi et Marlène. Ben bien. Donc, les circonstances étaient contre Moïse. C'était un garçon, un mâle, et les Égyptiens avaient pour ordre de Pharaon de les faire mourir à la naissance. Un génocide ordonné, puis qui n'a pas fonctionné. Ça avait été ordonné aux sages-femmes, puis Dieu s'en est mêlé, ça n'a pas marché. Alors, Pharaon ordonne à des Égyptiens de le faire. En les jetant dans le fleuve, pour être certain que ce coup-là, ça fonctionne. Et c'est de là que sont arrivés les premiers fonctionnaires. Vous ne saviez pas ça? Ben oui, leur rôle aujourd'hui, c'est de vous noyer dans la paperasse. C'est ça, les fonctionnaires. Leur job, ses parents... Même si ses parents le trouvaient beau, c'est pas la vraie raison qui a échappé au génocide. Pas le fondement, mais que c'est Dieu qui le trouvait beau. Notre passage dit, « Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. » Verset 17. « À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. » Verset 20. « Dieu portait son regard sur l'enfant de la promesse. » Pharaon et toute son armée de fonctionnaires ne pouvaient rien faire contre ça. Le plan de Dieu était enclenché. Et divinement, les parents de Moïse ont vu que leur fils, ils ont vu en leur fils, quelque chose de maintenant possible. Qu'est-ce qui était possible? La promesse, parce qu'ils la connaissaient, la promesse. L'Égypte avait oublié Joseph, mais pas les Hébreux. Plusieurs d'entre eux entretenaient encore l'espoir dans leur cœur. Cet espoir-là que Joseph avait, dans laquelle il s'est endormi. Mais quelle promesse! Tournez avec moi dans Genèse. Genèse chapitre 15, verset 13, et je le mets à l'écran pour ceux qui auraient seulement une copie du Nouveau Testament. Genèse chapitre 15, verset 13 et 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Hey, wow, ça c'est intéressant, là. Hey, là, ça, un moment comme ça, on attend ça, là. Et les Hébreux savaient compter les années. Ils savaient que s'approchait le temps. Le temps, sans connaître le jour, le mois, l'année, ils savent que le temps est proche de par leur connaissance de la promesse qui avait été faite à Abraham, qui l'a dit, qui l'a enseigné à son fils Isaac, qui l'a enseigné à son fils Jacob, qui l'a enseigné à ses fils, etc., etc., jusqu'aux parents du petit Moïse. Et là, je peux m'imaginer les attentes là, que ça pouvait créer dans le cœur des parents des Hébreux à ce temps-là. Hein? C'est comme les parents québécois d'aujourd'hui là, qui ils s'attendent, tu sais, ils se disent est-ce que notre fils va être, lui il va faire la ligne nationale, hein, quand il voit le bébé là, il va-tu faire la ligne nationale de hockey, de soccer ou de football. Mais là, eux, en voyant Moïse, il n'avait pas encore son nom, mais en voyant le bébé, ils ont dit c'est lui, c'est sûr, regarde sa face. Je le vois déjà avec son bâton dans les mains. Et l'élu est arrivé. Et ce fut par la foi que ses parents l'ont caché, nous dit Hébreux, chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que ses parents l'ont caché. Au risque de leur vie. Parce que là, les Égyptiens, ils cherchaient les bébés mâles. 3 mois. Est-ce que je peux vous suggérer aussi que c'est aussi par la foi qu'ils l'ont mis dans un panier sur le Nil et qu'ainsi ils l'envoyaient sur sa mission? Une série d'événements, hein? Une série d'événements s'en suivent, divinement orchestrés, qui amènent cet enfant à devenir un mature prince d'Égypte. Réalisons-nous que si ça n'avait pas été du simple regard de Dieu envers cet enfant-là, on n'aurait jamais entendu parler. Premièrement, son nom n'aurait pas été Moïse, et puis le nom que ses parents biologiques lui auraient donné, on ne l'aurait pas su. Il aurait probablement fini noyé au fond du Nil comme des milliers d'autres enfants mâles. Le point ici, la souveraineté de Dieu. Mes amis, la souveraineté de Dieu peut faire n'importe quoi, peut faire de n'importe qui un quelqu'un dans des circonstances les plus impossibles, contre toute attente. Tout est en contrôle par Dieu. Le courant de l'eau, la grande sœur qui va aller parler avec la fille de Pharaon, les arrangements pour la nourrice, etc., etc. Une série d'accidents orchestrés par Dieu. Un plan qui se développe dans le plus grand secret pour devenir l'homme élevé dans la sagesse, recevant ce qu'il y a de mieux sur la planète pendant 40 ans. Et puis, soudainement, tout change. Boum! Tout disparaît. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est toujours à l'œuvre, hein? Même pendant ces 40 ans-là. Dieu était à l'œuvre dans la vie de Moïse, dans son développement. Et il s'assure que malgré son identité égyptienne, il devienne pleinement conscient de sa véritable origine. Un Hébreu. Verset 23 de notre texte. Il avait 40 ans. Il avait 40 ans lorsque lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Mais plus encore, un Hébreu qui connaissait la promesse de Dieu faite à Abraham. Car tout d'un coup, Moïse s'est fait à l'idée que ça doit être lui. Écoute, il y a juste un quelqu'un comme moi qui pourrait faire ça. Il a cru être le libérateur des Hébreux. Et puis, il passe à l'action. Verset 25. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par sa main. Moïse passe à l'action. Écoute, c'est certain que ses frères allaient aussi le reconnaître comme le libérateur, hein? Spécialement dans la position où lui était. Il allait voir que, écoute, c'est une providence. Il est là, lui-là, c'est un Hébreu, puis il est dans cette position-là. Il occupait une place à droite du trône. Et que là, c'est important. Un véritable signe du ciel. Mais ses frères, ils répondent, « T'es qui, toi? Hein? T'es qui? On t'a vu aller l'autre jour avec ton sbire. On y a vu qu'est-ce que tu y as fait. C'est quoi, là? Tu vas nous servir la même recette? Hein? » Et à ces paroles, Moïse prit la fuite. Verset 29. Voyez-vous, l'entraîneur n'avait pas dit à Moïse d'embarquer sa glace. Trois joueurs, sifflette, pénalité. Et Moïse, le quelqu'un, devient en l'espace de quelques heures, quelques jours, un, excusez l'expression, mais c'est celle-là qui me fait le plus facile à dire, un nobody. Un quelqu'un à nobody, un personne. Permettez-moi d'utiliser nobody un matin. Ça va, ça coule mieux. Un bédouin dans le désert de Madian, une femme, deux enfants, un troupeau de moutons, les prédateurs, le fumier, les tempêtes de sable, pouf! Tout le reste, toute la gloire et les richesses, parties, évaporées. Quand on y pense, ça fait quasiment mal au cœur hein, de voir ça. Ces 40 ans-là de préparation, là, est arrivé si haut. Fini. Scrap. Parti. Quel gaspillage, on peut se dire. Avez-vous déjà pris la fuite à un moment donné dans votre vie? Ou peut-être ressentez-vous la nécessité de fuir quelque chose? Dans sa fuite, Dieu l'a mis de côté pendant 40 ans pour continuer sa préparation, mais dans un tout autre contexte. Écoutez, à sa place, là, on sera à raison de dire, là, « Hey, Dieu, il me punit là, en me faisant passer d'un quelqu'un à un nobody. » Puis en plus, il m'a oublié sur le banc de punition. Mais surprise, pas Moïse. Saviez-vous que Moïse, dans ça, il ne s'en faisait pas pour ça. Regardez ce que nous dit Hébreux, chapitre 11, les versets 24 et 25. Que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardez votre doigt à ce passage-là, on va y revenir. Hein? Moïse refuse, à un moment donné, il refuse les chevaux de luxe, le couscous au caviar, les bains au lait de chèvre, son cercueil en or dans la pyramide. Hein? Il rejette le rêve égyptien. Une grâce tout à fait mystérieuse touche son cœur. À l'âge de 40 ans, il s'intéresse et il s'identifie aux pauvres Hébreux. Il renoue avec ses véritables origines. Son ADN refait surface. Et par la foi, il accepte son destin de nobody aux yeux du monde égyptien. Et comme Moïse, on a peut-être besoin d'apprendre qu'auprès de Dieu, oui, c'est vrai, et ça fait mal. Aux yeux de Dieu, on est un nobody aux yeux du monde. Mais que je suis, vous êtes un instrument, un outil que Dieu va sortir de son étui, du coffre, du tiroir, à un moment donné où il a besoin de vous pour accomplir son plan divin. Il a besoin de cet instrument-là pour accomplir son plan. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est la suivante. Moïse était incapable d'en arriver à ça lui-même. Même à 40 ans, avec toute l'éducation qu'il avait, il n'y avait aucune intelligence. Là, les dames n'allaient pas dire, « Ah, t'as 40 ans, t'as plus d'intelligence. » C'est pas ça, là. Il n'y avait pas l'intelligence, ni le savoir, ni la sagesse, ni la force qui pouvait l'amener à cet état de paix, d'acceptation de cette nouvelle identité-là. Il n'y a personne sur terre comme Moïse qui en est capable. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit à cet effet. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette foi-là, dont on vous fait grâce, elle vient de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà ce que Moïse a reçu, la foi qui lui a fait voir sa nouvelle identité en Jésus-Christ, son Créateur, son Sauveur. Et regardez bien, on revient à notre passage de tantôt, Hébreux 11. Et là, je l'ai tout mis, mais j'ai mis en plus gros le verset suivant, 26. Hébreux, chapitre 11, verset 26. On continue, hein, toujours. Moïse, par la foi, hein, refuse le rêve égyptien, hein, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Dieu n'a pas permis qu'Israël soit délivré à ce moment-là, mais bien plus tard, car quelque chose devait arriver dans le cœur de Moïse. Donc, premièrement, il y a eu la conversion, la fuite de sa vie dans l'idolâtrie. Par pure grâce, Dieu lui a fait don de la foi pour ouvrir ses yeux sur la vérité. Voilà ma prière ce matin. Pour que chacun de vous qui entendait ceci et n'avait pas encore pris la fuite, pour vous réfugier dans le pardon, le repos, la paix de Jésus-Christ. Prenez la décision. Attendez pas. Prenez la décision ce matin. Prenez-la maintenant. Un pasteur de 44 ans raconte qu'il visite un homme de son église qui a 98 ans. Il vit en résidence et puis pendant la visite, le pasteur, il vient à l'idée, il dit, écoute, monsieur, on ne connaît pas son nom. Il vient l'idée de demander un conseil de vie. Puis il dit, puisque vous avez comme pratiquement ben, plus que deux fois mon âge, il dit, auriez-vous un conseil à me donner dans la vie? Là? On dit, on se connaît assez bien, tout ça. Et puis, écoutez bien ce que l'aîné lui répond. Il dit, il me regarde bien dans les yeux, puis il dit, entre l'âge de 40 à 60 ans, il dit, fais bien attention aux tentations qui vont se présenter dans ta vie. C'est la période où tu seras le plus vulnérable en voulant te prouver toi-même, en étant infidèle à la femme que tu aimes et de ressentir que tu mérites plus dans la vie. Sois très prudent. Le pasteur se disait à lui-même, écoute, je savais ça, là, mais... Parce qu'il disait, je n'avais pourtant pas l'impression de vouloir se lancer dans sa vie de jeunesse, mais venant de cet homme-là, ça l'a vraiment secoué. Moïse, à l'âge de 40 ans, était déjà bien plongé dans l'idolâtrie et l'immoralité, et à un moment donné, il s'est mis à lutter avec l'appel de Dieu, jusqu'à l'amener à un point déclencheur. Et il a pris la décision de fuir, d'abandonner cette vie dans le péché. Deuxièmement, Moïse avait ensuite, après sa conversion, il avait besoin d'une transformation. Hein, la transformation, si on attend d'être transformé, on perd notre temps. La transformation devait s'exécuter à l'intérieur de son alliance avec Christ, de sa nouvelle identité. À l'âge de 40 ans, il avait besoin d'une transformation parce qu'il se disait à 40 ans, « Je suis le libérateur. J'ai toute la connaissance et les forces pour le faire. » C'était ancré en lui. Et 40 ans plus tard, hein, 40 ans de vivre dans cette puissance et tout d'un coup animé de ce syndrome du libérateur, à 40 ans plus tard, Dieu le visite. Il change tellement longtemps plus tard. Ça fait tellement longtemps qu'il attend que lorsque Dieu l'approche, il lui répond, « Qui suis-je? » Je suis un nobody. Je n'ai pas le bâton. Je bégaye. Je ne suis pas le gars pour la job. Mais quel changement! C'est tout un changement, ça. Alors, à ce moment-là, Dieu savait que Moïse était prêt pour la job. Même si on refuse, si aux yeux de Dieu, tu es prêt, c'est ton temps. Quand l'entraîneur te donne la petite tape dans le dos, là, il faut que tu sautes sur la glace. Le temps pour Jonas était arrivé d'aller à Ninive pour aller les appeler à la repentance. Jonas, lui, contrairement à Moïse, il n'a pas argumenté longtemps. Il a sauté sur le premier bateau pour l'amener loin du regard de Dieu. Moïse, lui, quand il a argumenté avec Dieu, là, il a vu de ses propres yeux la colère de l'Éternel s'enflammer contre lui. Oh là là! Exode, chapitre 4, verset 14. Il a vu ça. La colère de l'Éternel s'enflammer contre lui. Là, il est retourné dans sa tente, fait sa valise, puis il est parti. Jonas, lui, il a vu le fond de l'estomac d'un poisson. Il s'est réveillé sur une plage, puis là, Dieu, il a dit, « Tu vas-tu y aller à Ninive, là? » Il s'est levé, puis il est allé à Ninive. Est-ce que je peux vous suggérer ce matin que nos douleurs, nos angoisses, nos sommeils agités, peu importe, peut-être ça peut être associé à un refus de sauter sa patinoire, hein, comme cette espèce de pression qu'on ressent. Devenir un nobody aux yeux du monde, mais être un instrument de Dieu, ça demande une compréhension qui vient de Dieu, pas de nous. Quelqu'un a écrit, « Toutes les expériences et les rencontres de nos vies font partie d'une préparation du futur que Dieu seul peut voir. Si je laisse Dieu m'utiliser, ils deviennent une mystérieuse et parfaite préparation pour les œuvres à accomplir. » Pour quelle œuvre? Pour quelle œuvre est-ce que Dieu vous prépare actuellement? Le buisson ardent a été un point tournant pour Moïse à l'âge de 80 ans. Moi, je crois sincèrement ceci, qu'il n'est jamais trop tard pour rencontrer Dieu. Dieu n'est jamais en retard en passant. Il n'est jamais en retard. Et puis, il n'est jamais pressé non plus. Ça, c'est l'autre aspect qu'on a souvent de la difficulté avec. Il n'est jamais en retard et Dieu n'est jamais pressé. Dieu travaille avec les expériences qui nous ébranlent, les expériences qui brisent les fondations de notre cœur pour reconstruire à sa façon son modèle, son moule. Et pensons-y, Moïse était un ambitieux, éduqué, admiré jeune prince de 40 ans. Puis il n'était pas prêt pour faire le travail que Dieu avait préparé pour lui. Alors, pour quelle œuvre est-ce que Dieu vous prépare actuellement? Dieu a tellement travaillé la vie de Moïse, là, ça y a pris deux segments. Hein? Deux segments de 40 ans. Et puis, c'est comme divisé en deux. Si on regarde toute la vie de Moïse, là, il y a un segment de 80 ans, préparation, 40-40, et puis là, on passe à l'action, 40. Hein? Ce qu'il faut retenir dans ça, ce n'est pas nécessairement le nombre d'années. J'espère que non. Hein? C'est la façon dont c'est réparti. Hein? Deux segments, préparation, action. La longueur puis le nombre de fois que le cycle peut se répéter, ça appartient à Dieu. Dans le cas de Moïse, Dieu a travaillé avec un homme qui était destiné à vivre pas mal plus que la norme, jusqu'au bout, 120. Mais on va se rassurer parce que Moïse lui-même, dans son psaume, le mentionne, et on l'a vu ce matin, hein? Son psaume 90 qui dit « Nos années sont de 70 ans, 80 pour les plus robustes. » Donc, Dieu va se débrouiller avec ça. Il va se débrouiller avec bien moins aussi. Ça peut être deux segments de 35 ans. Ça peut être deux segments de 5 ans qui vont se répéter 7 fois. Ou bien même, ça peut être une préparation de 68 ans pour accomplir quelque chose qui va prendre 2 ans. C'est un exemple. Mais vous comprenez l'idée. Dieu nous prépare puis nous fait passer à l'action dans les temps qu'il connaît d'avance, même si à un moment donné, on refuse. Et puis, il va nous empêcher, si ce n'est pas le temps, même si on voudrait le faire. Le dernier tiers de sa vie, le dernier tiers de la vie de Moïse, est curieusement celui qui pourrait nous ressembler le plus, comme croyant. Être une personne de foi et en même temps, être une personne qui doit apprendre constamment à faire confiance à Dieu. Moïse serait certainement en désaccord avec plusieurs des éléments que j'ai écrits dans son CV tantôt. Il m'expliquerait là, que, premièrement, il dirait, « Stéphane, c'est pas moi qui ai opéré les prodiges. Hein? C'est beau, là, tu l'as écrit pour moi, mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est pas moi. Je n'ai été qu'un instrument dans la main de Dieu pour les exercer. » Puis il me dirait aussi, là, j'ai longtemps cru que j'étais le fils de la promesse faite à Abraham et que c'était moi qui allais délivrer mon peuple. Puis encore une fois, non. Je n'ai été que l'instrument de la délivrance parce que voilà ce que Dieu m'a dit. Hein? On va retourner dans notre texte de Actes chapitre 7 au verset 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. C'est Dieu qui a délivré. On est tous des acteurs de second plan. On ne gagnera jamais le score du rôle principal. Il faut comprendre et se souvenir que Dieu nous réserve le score et le rôle de soutien seulement. Le rôle principal, c'est Christ qui l'a accompli, entièrement, pleinement, dans son obéissance parfaite jusqu'à la croix. Voyez-vous, ce matin, comme Moïse avait la nécessité de fuir, on a la nécessité de fuir notre vie actuelle, de demander pardon à Dieu pour être accueilli dans notre véritable famille au sein du corps de Christ. Et comme Moïse, on a la nécessité d'être transformé par les moyens que Dieu met dans nos vies pour ne dépendre que de lui. Et comme Moïse, on a la nécessité d'affronter un géant afin de parfaire notre transformation et d'accomplir l'œuvre que Dieu a préparée spécialement pour nous. Alors, allons-y. Allons-y. Mais allons-y par la foi qui nous vient de Dieu. Et comme Moïse, avec ses nécessités que j'accomplis, dans lesquelles je rentre, je pourrais dire, je suis Moïse. Béni soit Dieu. Prions. Seigneur Dieu, qu'il est tellement difficile de s'identifier à un personnage aussi grandiose à cause de ta main, Seigneur, qui a guidé la vie de cet homme, parce que tu avais besoin d'un homme pour accomplir une promesse. Et Seigneur, tu réponds toujours. Tu accomplis tes promesses. Maintenant, pour chacun de nous, après tant d'années, Seigneur, peut-être plusieurs sont en questionnement. Et Seigneur, agis dans le cœur de chacun, comme tu l'as fait avec Moïse, pour le changer, pour le transformer et pour l'amener à l'action. Seigneur, aie pitié de nous. Fais-nous du bien. Et on a le désir, Seigneur, d'être comme Moïse. Merci pour ta parole, Seigneur, et bénis cette journée qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ, amen.